actuel. Roman de Fauvel, du 18 au 26 mars au Théâtre du Châtelet, un spectacle France Inter.
10h13 sur France Inter, on aura tout vu. Christine Masson, Laurent Delmas.
Merci Christelle.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise. Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
40 ans après sa disparition, elle reste l'actrice tant aimée. En dehors de sa beauté, sa lumière, son intensité, c'est sa fragilité sans doute qui l'a mise à portée d'amour du public. Romy Schneider sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Oui, Romy Schneider à laquelle la Cinémathèque française à Paris consacre une grande exposition à partir de mercredi prochain et jusqu'à la fin juillet. Bonjour Jean-Pierre Lavoignat.
Bonjour.
Vous en revenez tout juste de cette expo en exclusivité et vous nous raconterez, parce que vous la connaissez si bien pour avoir écrit notamment ce livre Romy chez Flammarion, vous nous raconterez comment se raconte là-bas l'actrice, l'icône. Avec vous, nous parcourons la filmographie de Romy Schneider et peut-être aussi comment les malheurs de sa vie ont fini par se confondre avec ses personnages de fiction. Cavalier, Zulawski, Visconti, Wells, Sautet, Ruffio, Deray, Enrico, des rencontres déterminantes, des films qui restent et à l'arrivée un parcours d'émancipation. Schneider, toujours un modèle pour les jeunes actrices. Enfin, les sorties de ce mercredi sans masque et bientôt sans passe, de la MIF à la campagne de France, c'est parti.
France Inter, on aura tout vu, Christine Masson et Laurent Delmas.
Je crois que pour vous c'est vrai, quand on dit bon sang on ne peut mentir, parce qu'enfin, il y avait des artistes dans la famille, non?
Plein, oui. Du côté de mon père, tout le monde. Du côté de ma mère, seulement elle.
Ça vous a déterminé déjà, tout enfant?
Oui, oui. Ma mère ne voulait pas me laisser faire ce métier, mais plus tard, elle... En tout cas, elle m'a pas... elle m'a laissé la chance, elle m'a pas empêché de, au moins d'essayer de faire mon premier film. Et puis après, ça a continué.
Rosemary Magdalena Albarretti, qu'elle changera en Romy Schneider, le nom de sa mère, Magda Schneider, omniprésente. Une partie de l'enfance, l'été à Berchtesgaden, près du nid d'aigle d'Hitler que sa mère actrice célèbre rencontrera un jour. On a vu les images, elles resteront gravées chez Romy Schneider, et la guerre d'ailleurs, toute sa vie. Témoin ces films qu'elle fera plus tard pour lancer un signal contre les nazis, disait-elle. Jean-Pierre Lavoignat, vous dites, vous avez fait quand elle a dit ma mère m'a pas forcément poussé. Mais si, parce que sa mère lui a poussé
en fait,
à faire les Romy
Schneider. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle... Elle, dans son pensionnat, on dit qu'elle prenait beaucoup de plaisir à jouer des petites scénettes avec ses copines. Et quand sa mère, après 8 ans d'absence, de purgatoire, puisqu'elle avait été une actrice officielle de l'UAFA, en même temps... Quand je me suis occupé d'une expo, la première expo sur Romy Schneider, il y a 10 ans, j'avais cherché des photos... Alors, soit tout a été détruit, soit tout a disparu. J'avais cherché des photos d'elle, à des premières, avec des dignitaires nazis, tout ça, j'ai pas trouvé. Mais c'est en tout cas une actrice officielle, ça c'est sûr. Elle n'est pas partie, elle n'a pas fait comme Marlène, tout ça. Mais quand elle revient après 8 ans d'absence, on lui propose de faire un remake d'un film. Non, on lui propose de jouer Quand refleuriront les lilas blancs, dans lequel il y a une jeune fille de 15 ans.
Ouais.
Et elle dit, mais pourquoi pas ma fille? Donc, dire que sa mère voulait pas, c'est quand même pas aussi simple. Après, peut-être que sa mère a été très surprise que la carrière démarre aussi vite, puisqu'elle fait ce film, et tout d'un coup, son talent, son naturel, sa beauté, l'aisance qu'elle a devant la caméra, fait que tout de suite, elle enchaîne, et elle fera, avant Sissi, qui fera sa gloire, elle fera quand même 5 films.
Elle était surprise, voire jalouse.
Oui.
Sans doute. Oui. Et en même temps, c'est ce qui lui a permis aussi de pas mal travailler, puisqu'elle essayait de s'imposer dans tous ses films où elle jouait soit sa mère, soit sa tante, soit sa gouvernante.
Romy contre Sissi, ça l'énervait énormément quand des années après, on l'appelait encore Sissi. Cette série de 3 films qui l'ont rendue célèbre en Autriche et ailleurs, un mythe qu'elle cassera avec Visconti et le film Ludwig, le crépuscule des dieux, avec la vraie Sissi.
La seule protection possible, c'est la fuite. On m'a dit excentrique, mais cela on racontait déjà autrefois. Quand j'ai compris que je détestais cette prison de Hofburg, quand j'ai compris que mon mari ne quitterait jamais son uniforme, qu'il resterait toujours sur les pieds de guerre. Quoi que je fasse, je suis critiquée. Alors autant agir comme il me plaît.
C'est fou cette voix, hein. Passer de l'ingénue, manipulée par sa mère et son beau-père Jean-Pierre Lavoignat jusqu'à son départ pour la France, ça prouve lucidité, détermination et intelligence de Romy
Schneider. Bien sûr, et une exigence artistique.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est un métier qui lui a plu tout de suite, dans lequel elle s'est sentie très bien, mais où elle savait bien qu'elle n'était pas condamnée toute sa vie à jouer des rôles de princesse avec des crinolines et des diadèmes. Donc dès qu'elle a pu déjà le troisième Sissi, elle l'a fait un peu de force.
Limite, ouais.
Et quand on lui propose le quatrième, elle dit non, ça c'est too much. Et j'arrête. Parce que elle avait envie de déployer autre chose. En même temps, on a une mauvaise image de Sissi. Je peux juste une seconde réhabiliter un peu Sissi.
Mais comment peut-on réhabiliter
une seconde, parce que une seconde, on dit tout le temps, pas. C'est à l'eau de rose, tout ça. Ce qui est vrai.
Ouais.
Ça, c'est vrai. Mais quand on regarde les films, le personnage est déjà quand même un personnage de rebelle. On lui soupçonne quand même une aventure avec un amant qui, en plus, est hongrois. Enfin, c'est pas aussi lisse que ce qu'on veut bien le dire. Après, ça n'est pas mal. Mais il n'y avait que Visconti qui pouvait la convaincre.
Ouais.
De rejouer Sissi.
Le film est magnifique.
Il lui fait la proposition à Cannes quand, ouais, elle vient lui remettre la palme pour, enfin pas la palme, le prix spécial, ouais, pour le 25e anniversaire et l'ensemble de sa carrière.
Ouais.
Après la cérémonie, il lui dit j'ai un rôle pour toi. Elle lui dit une pute, j'ai déjà joué Max et les Ferrailleurs. Il dit non, parce qu'il lui dit j'ai un rôle pour toi que tu connais bien.
Oui.
Alors elle lui dit une pute, mais j'ai déjà joué Max et les Ferrailleurs. Il lui dit non, Sissi. Et il y avait que lui, mais sauf que c'est effectivement la vraie Sissi, je sais pas, mais en tout cas Elisabeth d'Autriche, qui est un personnage assez fantasque, assez excentrique, et qui a beaucoup de points communs avec Romy Schneider quand, ouais, même, sur la quête de l'absolu, sur cette espèce de malaise germanique que Sauté appelait, ça c'est son côté romantisme,
ouais,
allemand,
ouais.
Enfin, il y a beau, et même là, un peu la fatalité sur leur destin. Et ils avaient en projet de faire une vie entière d'Elisabeth d'Autriche,
ouais,
et la maladie de Visconti l'en aura empêché.
Il l'appelait Romina, c'était très mignon. Elle, c'était une énorme bosseuse, Romy Schneider. D'ailleurs, elle a appris le français incroyablement vite.
Mais vite, elle arrive quand elle quitte donc Delon et le prétexte. On lui propose le quatrième Sissi. En même temps, on lui propose Christine, qui est le remake d'un film qu'avait joué sa mère de Max Ophuls, qui était Libelai.
Ouais.
Et on lui demande de choisir son partenaire, comme c'est une coproduction française. C'est un film de Gaspard Huit.
Pierre
Gaspard Huit, que Truffaut appelait Pierre Gaspard Zéro.
ça s'est fait.
Voilà, ça s'est fait. Elle choisit sur un catalogue. Et elle voit Delon, qui a 23 ans, qui est beau comme un cœur, et elle dit lui. Et donc, ça lui donne la force, son amour, l'amour qu'elle a pour lui, ouais, lui donne la force à la fois de refuser le quatrième Sissi et de quitter l'Allemagne et de s'installer en France. Mais quand elle arrive en France, elle sait à peine parler français.
Et trois ans plus tard, on lui propose, Alain Cavalier propose Le Combat dans l'île. Elle joue Anne, la compagne de Clément, Jean-Louis Trintignant, un jeune militant d'extrême droite manipulé par son chef de groupe. Le réalisateur Alain Cavalier avait déjà perçu la faille chez Romy Schneider.
Ça m'a rappelé un tournage, on était à la Closerie des Lilas la nuit. Elle avait 25 ans, tout d'un coup, elle a disparu. Alors je me suis dit, mais où est-elle? Et je me suis dit, mais il faut que je la cherche. Alors je l'ai cherchée et j'ai fait les cafés. Et il y avait un café du boulevard Montparnasse, je suis rentré et je ne l'ai pas vue. Et il y avait, à cette époque-là, des arrière-salles qui étaient séparées par des vitres opaques, comme ça, pour que les gens soient tranquilles. Je suis rentré dans l'arrière-salle, là. Elle était devant une bouteille de Bordeaux qu'elle avait sifflée aux deux tiers. Et elle était tranquille, elle avait complètement oublié, nous. C'est-à-dire qu'elle avait un feu qui la rongeait, elle avait quelque chose qui la rongeait, et à certains moments, elle ne pouvait l'apaiser que par l'alcool. Moi, j'aimais la regarder entre les prises. J'aimais pas tellement quand elle jouait, c'est-à-dire parce que tout ça me paraissait de l'artifice. Mon problème avec le cinéma, c'est que c'est l'artifice, en fait. Mais j'arrivais à lui prendre des choses entre les prises et à lui demander de les refaire quand elle jouait. Et c'est les petites parties du film dont je me souviens, que j'aime bien, en fait. C'est quand j'arrivais à lui faire imiter la vie.
Pourquoi vous êtes-vous arrêté de faire du théâtre?
Parce que je n'étais pas une assez bonne comédienne. Et parce que Clément voulait aussi que je m'arrête, et aussi à cause de mon accent.
Mais vous aimiez jouer.
Oh oui, j'aimais cela. J'avais peur. Je savais que je ne jouais pas très bien. Mais j'aimais cela.
Un feu qui rongeait déjà Romy Schneider à 25 ans, qui a repéré Alain Cavalier. Je sais que vous aimez bien dire, rappeler qu'Alain Cavalier a dit que c'était un génie, cette femme. Non, mais il repère ça aussi.
Oui, il repère
ça aussi.
Le génie
et la faille.
Mais il dit quand même, alors que c'est son premier film, et qu'elle, c'est son premier film en français, elle a juste joué la pièce avec Delon, mise en scène par Visconti, Dommage qu'elle soit une putain, pour lequel elle apprend le français quasiment, ouais. Ce qui est donc incroyable. Alors là, on voit qu'elle a encore un très fort accent, mais il y a une autre interview de Cavalier, où il dit « J'ai vu arriver sur mon tournage une petite jeune fille, tout droit sortie des sucreries viennoises, pleine de meringues et de tout ça. Et en une semaine, je l'ai vue devenir une tragédienne typiquement française, dans une histoire typiquement française, dans une langue typiquement française. C'est ce qu'on peut appeler le génie. »
C'était les deux, alors. Voilà. C'était le génie et la faille.
Et vous n'êtes pas toute une pièce, elle non plus.
Et le génie,
elle avait l'ombre et la lumière, mais toujours. Même quand on regarde sa vie, quand elle est fait, effectivement, elle est élevée pas loin de Berchtesgaden, et elle est très heureuse avec son petit frère et ses grands-parents, et il y a déjà la joie et la menace, l'ombre et la lumière. Ouais. Ça a été ça toute sa vie, mais comme beaucoup de vies quand même. Je dis juste ça parce que c'est vrai que depuis quasiment 10 ans, tout ce qu'on voit à la télévision, tous les documentaires sur elle, toutes les interventions, c'est comme si sa vie n'était que ça. Comme si sa vie n'avait été que des drames, comme si elle avait vécu en pleurant tous les jours de sa vie. C'est sûr que non. Et c'est pour ça que j'aime les films de Sauté, on y reviendra sans doute.
Oui,
c'est parce
sûr.
Que c'est des films qui la montrent comme elle était forcément aussi, c'est-à-dire lumineuse, rayonnante, émouvante, voilà, et pas juste fracassée.
Alors, ce qui est fou, c'est qu'il y a deux...
Quand la voilière aime Romy Schneider, ouais, on peut le dire en incident. Ouais.
Mais oui, oui,
non,
bien
ce qui est,
sûr.
Ce qui est fou, Jean-Pierre.
Mais j'aime les deux, hein,
oui,
j'aime
oui,
aussi sa part d'ombre.
Ce qui est fou, c'est qu'il y a deux prix remis à des jeunes comédiens en ce moment en France, qui sont le prix Romy Schneider et le prix Patrick Devers. Tous les deux partis en 82, tous les deux des blessures vivantes.
Tous les deux ont tourné avec Sauté.
Oui, mais c'est fou. En fait, ce sont des modèles très intenses pour les jeunes comédiens.
Et c'est parce qu'ils symbolisent tous les deux une espèce de don de soi au métier.
Oui.
C'est-à-dire que, on va sans doute reparler de la scène de l'importance et d'aimer. Cette scène-là que toutes les actrices ont vue, et les acteurs,
ouais.
Demandez à Jean Dujardin de vous parler de Romy Schneider, vous verrez comme il vous en parle bien. C'est parce que cette scène, elle symbolise le don de soi au métier, l'incarnation même du métier d'acteur. Et Devers, c'est pareil dans Série Noire, c'est pareil. Il y a un don de soi absolu à ce qu'est ce métier.
Non mais c'est drôle, c'est la
barre. Forcément, pour des jeunes acteurs, ça donne envie.
Mais c'est énorme comme exemple pour eux.
Ah mais c'est énorme et terrifiant en même temps.
C'est-à-dire qu'on n'a plus de, destin. C'est-à-dire que les comédiens et comédiennes français sont presque, j'allais dire, c'est pas bien de le dire, beaucoup plus sage, en fait.
Oui, c'est les époques aussi qui changent, et puis les natures, mais c'est vrai que ces deux acteurs-là, enfin, Romy Schneider et Patrick Devers, ils incarnent ça, cette espèce d'incarnation absolue du don de soi dans le métier d'acteur.
Mmh. Ben, on va écouter cet extrait de L'importance des mille
Zola.
Et
voilà.
Allez, je t'aime. Encore, vas-y. Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Non, je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça ici, je le fais pour bouffer. C'est tout, alors ne faites pas de photos. C'est celui-là. S'il vous plaît. Coupez.
Ne faites pas de photos.
Au revoir sur le plateau.
Mais vous, là.
Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai dit pas de photographe sur le plateau.
Vite.
L'importance d'aimer Zulawski, d'ailleurs, c'est le premier César d'actrice remis en France à la cérémonie des Césars à Romy Schneider. Mais ce qui est fou, c'est, vous l'avez dit un jour, on n'a jamais évoqué son accent dans les films. Ça ne faisait pas partie du scénario.
C'est-à-dire que dans les deux, trois premiers films, on justifie quelque part sa mère est allemande. Mais après, on ne s'en soucie plus.
Oui.
C'est incroyable. Dans l'histoire du cinéma, ça doit être très, très, très rare. C'est-à-dire que tout d'un coup, et les films de Sauté vont beaucoup y contribuer, elle devient non seulement la première actrice à être récompensée d'un César, mais en plus, elle est l'incarnation de la femme française même. Et c'est incroyable, parce que même dans le film de Zulawski, je ne crois pas qu'on fasse mention de son origine.
Non.
Je crois qu'on ne dit rien, quoi. On n'a pas besoin de justifier. En fait.
Lui-même est polonais, et voilà.
Oui. À la fois, d'abord, c'est amusant parce que, et dans Le Cavalier, et dans celui-là, elle joue une actrice.
Oui.
Voilà, mais ça, c'est un bon point. C'est juste aussi de montrer Le Combat dans l'île, c'est le premier film d'Alain Cavalier.
Oui.
Zulawski, c'est son troisième film. Il est arrivé en France, il est totalement inconnu.
Oui.
Sauf d'une poignée de cinéphiles,
etc. En Pologne.
Voilà. Mais ça montre aussi son exigence, sa curiosité, le goût du risque.
Oui.
Elle fera le premier film de Francis Giraud, Le Trio Infernal, qui n'était pas un film facile. Ça montre aussi sa curiosité dont on ne parle pas beaucoup. On a l'impression que c'est une actrice installée, qu'elle avait devant elle un boulevard, et en fait, elle a pris beaucoup de risques.
Vous en parliez à la grande rencontre en 70 avec Claude Sautet à l'occasion de ce film, Les choses de la vie, et le début d'une grande collaboration.
Je cherchais à l'époque une actrice pour jouer le rôle et je sais pas, aucune actrice française ne me plaisait. On m'avait parlé de Romy Schneider qui était dans le creux de la vague, à l'époque n'avait plus de valeur commerciale. Et je l'ai vue presque en me disant, bon, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'assez sophistiqué et j'avais l'image de Sissi. Et puis je suis tombé sur une femme qui avait 31 ans, très drôle, très vivante. Et on a déjeuné ensemble et je sais pas, on sait plus, comme on dit, voilà. On s'est beaucoup amusé. J'ai parlé du rôle, elle était enthousiaste. Quoi. Et elle m'avait fait cette remarque qui m'avait frappé. Elle m'avait dit surtout ne t'occupe pas de ma photogénie. Ça, mon père m'a dit que j'étais photogénique. Ce qui compte, c'est le reste, ça dépend de toi. Voilà. Et elle n'attendait que 3 semaines dans le film. Et elle a donné beaucoup plus que je l'attendais, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle avait une faculté d'émotion interne qui avait été enfouie pendant très longtemps, qu'elle dégageait très facilement. Elle était en même temps, ça qui était bien, c'est qu'elle était exigeante. Et moi, comme c'est la première fois que je traitais des problèmes de couple, je me sentais très exigeant, quoi. Et plus j'étais exigeant, plus elle l'était, ce qui fait que c'était une espèce de surenchère passionnante, quoi. Elle avait aussi, il faut le dire, un grand goût d'absolu. C'est-à-dire que quand on tournait, quand elle n'était pas seule, si on ne la regardait pas, elle était démoralisée. Elle s'arrêtait. Il fallait jamais la cligner des yeux. Ou autrement, si je trouvais une prise très bonne, elle m'envoyait un mot pour me dire on doit la refaire parce que tu ne m'as pas regardé. Elle avait un côté. Voilà, il fallait être très très attentif.
Sauté, Schneider, vous avez écrit un livre sur eux, Les choses de leur vie, Jean-Pierre Lavoigna.
Il est presque fini.
Ouais.
Oui, bientôt, avant l'été.
Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là?
Une sorte d'alchimie mystérieuse qui tient. De à la fois du cinéma, de la vie, de la nature, qui devient forcément une sorte d'histoire d'amour sublimée et qui permet des collaborations magnifiques. Et comme il y a dans l'histoire du cinéma, entre souvent un interprète et un réalisateur, et en France, c'est pas arrivé si souvent que ça, et là, tout d'un coup, il y a quelque chose de magnifié où chacun magnifie le talent de l'autre. C'est comme s'ils avaient été faits pour se trouver.
Oui.
C'est-à-dire, sans elle, les films de Sauté n'auraient pas eu cette chaleur, cette lumière, sans doute cet impact public et cette émotion vibrante, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'affiche pas forcément, mais qui est là tout le temps de manière souterraine. Cette faculté qu'elle avait de changer d'expression en une seconde. C'est Dabadi qui a écrit les films de Sauté qui disait son visage est un paysage où, en un quart de seconde, l'orage arrive, le soleil revient, sans lui, elle l'aurait pas, elle se serait sans doute pas dépassée, elle serait pas devenue l'incarnation de la femme française dont on parlait. Ils se sont apportés. Je veux dire, il était son Pygmalion, elle était sa muse, et l'inverse, quoi. C'est vraiment, et il parlait de sa rigueur, et je pense qu'effectivement, ils avaient tous les deux une rigueur incroyable, et une exigence, et une volonté. Il disait de lui-même de leur rencontre, c'est un coup de foudre créatif qui, très souvent se transformer en coup de gueule tonitruant.
Les choses de la vie, on connaît cet homme entre deux femmes, Laurent, et ce qu'on a choisi, c'est cette chanson qui n'est pas dans le film.
Ah oui, qui n'est pas dans le film, Sauter n'en voulait pas. Ouais. Elle a été écrite par Dabadi pour les paroles et par Philippe Sard pour la musique, mais lui, Sauter, souhaitait pas qu'il y ait une chanson, en plus, interprétée par Piccoli et Schneider. C'est Sard qui, avec un peu d'insistance, a fait ceci, et ils l'ont fait en plus... trois fois, c'est-à-dire pas seulement en français.
En allemand, en italien.
Et en italien.
Eh bien, on va tout écouter.
Eh bien, voilà.
Ah oui, les trois.
Ouais.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes.
D'Hélène, Jean-Pierre Lavogna, vous nous disiez qu'ils avaient essayé de refaire le même coup pour César et Rosalie.
C'est ça, Dabadi a écrit des paroles, Sard a pris une des mélodies de César et Rosalie et Sauté a fait en sorte que ça n'arrive pas. Alors quand Sard le raconte, il dit, on n'a pas eu l'interdiction, mais en tout cas ça n'a pas pu se faire, mais elle a été enregistrée en anglais par une chanteuse anglaise et la chanson existe.
Voilà. Dabadi qui a écrit donc trois Sautés avec Romy Schneider, Les choses de la vie, César et Rosalie et Une histoire simple, tous donc qu'il a co-scénarisé. Ensemble, vous lisez déjà qu'ils ont inventé à travers elle, en fait, une femme affranchie.
Oui, une femme...
Une femme française.
Une femme française de son époque.
Oui.
Libre, en tout cas, voulant assumer à la fois sa liberté, cherchant quand même l'harmonie dans les rapports amoureux, mais une femme vraiment de son époque. Et ce qui explique aussi le succès public de ces films-là et de Romy Schneider, c'est que les hommes, forcément, la trouvaient belle et désirable, mais en même temps insaisissable. Et les femmes se projetaient en elle, à la fois soit parce qu'elles s'y reconnaissaient, soit parce qu'elles auraient aimé s'y reconnaître.
Ouais.
Et c'est ce mélange qui a fait qu'elle s'est imposée comme l'incarnation de la femme française.
Jean-Louis Dabadi.
On n'en avait pas du tout conscience, ni préscience, ni science. Ça, c'est ce qu'on connaissait, nous, dans nos familles, dans notre vie privée, dans notre vie amoureuse. C'est avec nos femmes, nos enfants, nos parents, parce qu'on essayait de faire une décalcomanie de l'époque. Je pense que nous étions plus inspirés par elles-mêmes par cette force qu'elle nous donnait, même quand on ne la voyait pas, même entre deux films et trois films, elle nous inspirait, elle plantait une énergie, des racines en nous. On avait envie de faire de Romy ce qu'elle était profondément, c'est-à-dire une rebelle. Le personnage a ému les femmes françaises, mariées, pas mariées. Combien de fois on s'est entendu dire, avec Claude Sautet, après... Ah, cette histoire, c'est pas vraiment moi, mais c'est moi, je me suis trouvé dans ce même... Et du coup, c'était comme un château de cartes. Au travers de César, au travers des montants, il était dit ce que tout le monde, nous tous, nous pensions de Romy Schneider. Les gens de notre métier, et puis les gens du public, tout le monde aimait Romy Schneider.
Jean-Pierre Lavoignat, ils ont inventé une femme libre et une actrice aussi qui a pris position, notamment contre l'avortement. Stern, Allemagne, poursuivie. Elle allant même jusqu'à aller voir Willy Brandt pour ne pas subir cette condamnation. Elle a pris énormément de risques.
En fait, elle a signé à cette époque-là l'équivalent du manifeste qu'il y avait eu en France, oui. des 343 salopes, oui. comme avait dit Charlie Hebdo. Elle l'a signé à la une de Stern et c'était elle la plus connue, forcément. Oui. Et elle, effectivement, il y a eu des poursuites engagées et elle risquait pas elle toute seule. Elle risquait la prison, toutes ces femmes qui avaient signé. Sauf que tout d'un coup, effectivement, Romy est allée voir Willy Brandt pour le convaincre que c'était. Et tout d'un coup, ils ont arrêté les poursuites de tout le monde. D'abord parce que beaucoup de femmes après avaient écrit en disant moi aussi, et qu'il aurait fallu juger, emprisonner je sais pas combien de femmes. Donc, mais. Et juste pour vous dire que. Romy, c'est à la fois tout et son contraire, c'est qu'elle fait ça, et pour montrer qu'elle est libre, très peu de temps après, elle pose nue sur la couverture de Stern, et ces deux choses serviront, hélas, à son mari, Harry Mayen, pour essayer de justifier qu'il est la garde de l'enfant, qu'il est la garde de David, en disant on ne peut pas confier un enfant à une femme qui dit qu'il s'est fait avorter et à une femme qui pose nue.
D'ailleurs, elle se fait avorter au début d'une histoire simple. Est-ce que ce n'est pas le film de trop avec Claude Sautet ?
Oh non.
Non ?
Non. Non, non, je sens que vous avez bien essayé, mais pas du tout. Sautet lui-même n'était pas fou du film, en tout cas au moment de la sortie.
Ouais. C'était un peu une commande de Romy Schneider, ce film.
Non, c'est pas une commande.
Enfin, elle voulait un film pour elle, toute seule.
Non, mais justement, le film n'est pas... Justement, le film n'est pas pour elle. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils disent ensemble, quand tu auras 40 ans, là, on ne sait pas bien si c'est elle qui demande ou lui qui propose. En tout cas, l'idée est de dire, à 40 ans, on fera un film ensemble. Elle se marie avec Daniel Biasini, elle a Sarah, tout ça. Elle dit, il est temps parce qu'il y en a marre de tes films de bonhomme. Donc, avec Dabadi, ils écrivent une histoire simple.
Oui.
Qui est l'histoire d'un groupe de femmes. Si bien que quand elle lit le scénario, il y a une grande scène d'engueulade, mais historique, homérique, entre Sautet, Dabadi et Romy Schneider.
Elle s'en va avec la capote.
Voilà, qui dit, mais c'est pas moi. Ouais. Là, tu m'as écrit Simone, Machine et les autres. Et puis après, elle est tellement contente et de retravailler, et puis du personnage. Et je suis pas d'accord avec vous, c'est pas du tout le film de trop, parce que... À l'époque, on peut penser qu'il est trop ancré dans la réalité. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a ce recul qui dépeint cette époque-là. Oui. Et en même temps, il y a toujours, comme toujours, chez Sautet et Dabadi, des histoires de sentiments, des histoires d'hésitation, des doutes, des silences, des ruptures. Et c'est son parcours est celui d'une femme libre, puisqu'au début, elle décide d'avorter sans rien dire à l'homme qui lui a fait l'enfant. Oui. Et à la fin, elle décide d'avoir un enfant sans le dire au père qui lui a fait.
Ça sera un des chapitres du livre. Non, pour terminer, vous avez vu en avant-première l'exposition à la Cinémathèque. Alors ?
Eh ben, c'est une très belle exposition avec de très très belles photos, de très beaux documents. Et c'est une exposition justement qui valorise... son côté actrice, d'une actrice au travail, donc il y a beaucoup de documents sur avec les metteurs en scène, des interviews des uns et des autres, il y a beaucoup de documents qu'on connaissait pas, et il y a surtout une mise en valeur de la femme rayonnante et lumineuse. Il y a des immenses photos très belles, et franchement, enfin, c'est trop court pour qu'on rentre dans le détail, mais franchement, allez-y, et vous l'aimerez encore plus, et vous aurez surtout envie de revoir ces films.
C'est jusqu'au 31 juillet à la Cinémathèque française à Paris, mais il y a aussi l'album, le catalogue de l'exposition qui est merveilleux, qui est fait par Flammarion, qui est un très très bel album, qui est plus qu'un catalogue d'expo, qui est vraiment un livre très très bien fait, on vous le recommande. On vous recommande aussi la lecture de Romy Schneider, Les actrices se brisent aussi facilement, chez Capricci par Faustine Saint-Géniès. C'est une assez belle approche.
Je n'ai pas lu celui-là.
Et ben voilà, chouette, on vous apprend quelque chose.
ensuite... Non mais des livres sur Romy, hélas. Mais il y en a beaucoup. Hein.
Ensuite, il y a un livre de Luc Lanisbach chez la Maison Cocorico, c'est le nom de la maison d'édition, qui s'appelle La Piscine, c'est tout le tournage de ce film mythique avec Delon. Et puis, il y a donc, effectivement, on le disait, un certain Jean-Pierre Lavoignat qui, quand il le voudra bien, c'est-à-dire avant l'été...
Quand il le pourra bien.
Oui, on dit toujours ça. Publiera chez La Martinière l'ouvrage Romy Schneider et Claude Sauté, Les choses de notre vie.
Et il sera très beau, il y aura beaucoup de documents très rares, notamment des télégrammes et des lettres de Romy.
Ah, bravo. Dernière question, qu'est-ce qu'elle avait que les autres n'ont pas ?
Un mystère. Mmh. Elle avait, je pense qu'il y a... rarement une actrice aura été à la fois aussi belle et aussi émouvante, aussi forte et aussi vulnérable, aussi bénie des dieux et autant marquée par le destin. Elle avait tout ça. Elle avait surtout, je pense qu'elle avait, et je l'ai pas assez dit peut-être pendant cette émission, son talent d'actrice, c'était une puissance d'incarnation incroyable. C'est-à-dire qu'il y a, on sent jamais le jeu, on sent jamais le trucage. Elle a la justesse d'un fil à plomb, et en même temps, elle peut être émouvante. On parlait de la scène tout à l'heure de l'importance c'est d'aimer. Il y a un mélange d'abandon et de maîtrise. Oui. Qui est extrêmement rare, parce que sur cette scène, ce qui est troublant, c'est que tout le monde y voit presque la vérité, mais c'est pas la vérité, elle joue, c'est pas elle, elle joue, et pourtant, tout le monde pense que c'est un documentaire.
Romy Schneider à la Cinémathèque, grande expo et oui. Retour sur énormément de ses films et débats, etc.
Très bien.
Juste un petit mot,
oui.
Parce que je l'adore et que sur Romy... Il y a un très beau livre à lire, c'est celui de sa fille, Sarah Biasini, qui s'appelle La beauté du ciel, où pour la première fois, elle parle, pas beaucoup, mais très très bien, de sa mère, de l'actrice, mais aussi de sa mère et de sa fille qu'elle vient d'avoir. Voilà.
Lana Del Rey, Watercolor Eyes.
Why you always doing that? Breaking up with me, then making love. Just to make me mad. I think that you taste like rock candy, sweet like peaches, leave me all sandy. Why do you leave me with watercolor eyes? Young love don't always last forever. Wild horses can keep us together. So what if you taste just like heaven? That don't
sorties, on va commencer par Seuil Libre est un doc de Laure Portier. Lorsque nous étions enfants, j'étais la mignonne petite fille et Arnaud, c'était la tornade, mon petit frère. On attendait toujours la prochaine connerie qu'il allait faire. Le regard des adultes l'enfermait dans cette attente. Il finissait par faire une connerie comme pour leur donner raison. Laure a donc filmé Arnaud, Laurent, pendant 15 ans de sa sortie des prisons de la prison des Baumettes à Marseille jusqu'à l'Amérique du Sud, où il décide de s'installer et d'être libre.
Oui, alors on peut penser que c'est un exercice assez convenu, hein, de le film de famille, la grande sœur qui filme son frère ou qui filme ses parents à d'autres occasions, les grands-parents, tout ça. Bon, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ça parce que, au fond, ni l'un ni l'autre ne se ménagent. C'est-à-dire, c'est pas du tout un film sur une sœur qui serait complètement admirative ou qui voudrait analyser absolument son frère. C'est pas ça du tout. C'est une sorte de portrait croisé, de miroir que l'un tend à l'autre. Alors évidemment, il y a la filmeuse et le filmé. Leur statut reste jusqu'à la fin du film. Même si d'ailleurs le filmé devient filmeur quand vous disiez que ça part en Amérique latine. Là, ce sont des images de lui qu'on voit absolument. Mais néanmoins, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est cette espèce d'interpellation permanente où le filmé met en cause la filmeuse dans ce qu'elle fait ou ne fait pas bien, ou ne devrait pas faire comme ça, et où en même temps la sœur ne le ménage absolument en rien. Donc, dans cet exercice de style qu'on pourrait croire un peu convenu, ben, en 1h18, Laure Portier atteint des petits moments miraculeux sur ces rapports-là.
Seuil Libre. La campagne de France de Sylvain Descloux, c'est aussi un doc en Indre-et-Loire, je souris parce que bon, après, en Indre-et-Loire, le petit village de Preuilly-sur-Claise va élire un nouveau maire. Ils sont trois sur la ligne de départ, Jean-Paul le vétéran, Patrick l'outsider et le jeune Mathieu, surdiplômé, maladroit, timide, fantasque et intrépide. Ce dernier a une pièce maîtresse dans sa liste, c'est Guy, un vieux briscard de la politique. C'est tendre, c'est drôle, c'est ironique, c'est touchant, mais c'est pas moqueur ni cynique. C'est un portrait amoureux du village des grands-parents de Sylvain Descloux, portrait en même temps de la France rurale, Laurent. Et oui, merveilleux ce documentaire.
C'est une petite merveille. Ouais. Le personnage principal dont vous parliez, c'est une sorte de clone entre Trifon Tournesol et Cédric Villani. Donc c'est incroyable. C'est-à-dire, on se demande, mais comment est-ce qu'il peut en arriver là? Comment est-ce qu'il peut croire un seul instant que les gens vont voter pour lui? En plus, il est effectivement assorti d'une espèce d'ex mitterrandiste, danseur mondain. Enfin, c'est un attelage, mais sidérant. Donc, évidemment, sans révéler, sans spoiler le film, mais c'est pas lui qui gagnera. Et c'est une autre liste, la troisième liste, avec au milieu une autre liste. Et là, ça donne une tournure incroyable.
Un type qui n'a pas de programme.
Il n'a pas de programme. Incroyable. La démocratie participative. Il fait une réunion publique pour demander aux gens de lui bâtir son problème. Mais les gens le regardent en disant, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour venir écouter vos propositions. Enfin, c'est absolument surréaliste. C'est entre Striptease et Raymond Depardon. Mais il y a, comme vous le disiez, il n'y a pas de mépris, c'est pas en surplomb, on est en empathie avec ces gens-là, mais ça donne effectivement quand même assez froid dans le dos sur ce que peut être la démocratie locale, parce que à ce point-là quand même, de pas être dans les clous, c'est incroyable.
Ça s'appelle la campagne de France, allez-y, Housewife de Yukiko Mishima. C'est en recroisant son ancien amant de faculté que Toko, depuis longtemps femme au foyer, voit soudain renaître en elle le désir de travailler, de reprendre son métier d'architecte.
Alors, il paraît que Yukiko Mishima est une réalisatrice très connue au Japon, qui a une grande œuvre derrière. C'est le premier film d'elle qu'on voit en France. Bon, voilà, alors qu'on est assez, on a un tropisme japonais quand même en général. Bon, c'est le premier. Moi, j'avoue, pas avoir été très convaincu par celui-là, parce que ça aussi, en permanence, entre le mélo et puis une volonté sociale qui passe, une volonté sociale qui est sur la condition féminine de la femme japonaise notamment. Le problème, c'est que le versant mélo est largement lesté par une musique de piano, mais abominable. J'ai rarement vu ça. C'est même Richard Klederman, ça vient du bac à côté. Donc, franchement,
on va pas s'attarder alors.
Non, on va peut-être pas s'attarder. D'accord. Juste pour dire, voilà, que ben, c'est dommage parce que le propos social, par contre, lui, était très intéressant.
Manu, premier film de la directrice de casting Antoinette Boula. Marion, 18 ans, vit avec le souvenir d'une sœur trop tôt disparue. Une nuit, elle croise le chemin d'Alex, un jeune homme spontané et libre. Ils unissent leur solitude et traversent Paris jusqu'au petit matin. Portrait nocturne, donc, d'une jeunesse en deuil de son innocence. Sens, beaucoup de grâce dans le filmage, mais malheureusement trop de plans insistants sur sa jeune héroïne qui lasse à force. Mais heureusement, la présence d'un acteur singulier, magnétique, il s'appelle Tom Mercier.
Oui, alors il faut dire qu'Antoinette Boula, c'est pas n'importe qui dans le cinéma français. C'est une directrice de casting qui a travaillé notamment et pas seulement avec Assayas, Wes Anderson, Carax. Enfin bon, voilà, donc elle a un pédigré, si je puis dire, qui est très important. Bon, elle passe à la réalisation avec, effectivement, moi je suis assez étonné parce que enfin, c'est, en même temps, c'est pas si étonnant que ça, mais sa posture de casting, je trouve qu'on la sent en permanence, parce qu'on a l'impression qu'elle traque en permanence l'attitude, le geste, dans le visage de son héroïne, et il y a du coup une sorte d'affaîtrie de choses trop travaillées. On aimerait plus de spontanéité, on aimerait comme ça un allant, même si le sujet est grave, un peu plus fort. Il y a une sorte de quête de sens permanente, et on se demande au fond justement où va son personnage.
La MIF de Frédéric Bailly, une fiction, oui c'est ça, Bailly. C'est une fiction filmée comme un doc au cœur d'un foyer d'accueil pour adolescentes et un film sur les limites du système de protection de la jeunesse. Discussion engueulade entre des jeunes acteurs qui n'en sont pas et qui ont travaillé en amont dans des ateliers d'improvisation. La MIF, le titre, eh bien, c'est La famille en verlan.
Oui, alors, le gros atout du film, c'est ce que vous disiez en finale, c'est les interprètes qui ne sont pas des acteurs professionnels, qui sont des amateurs, qui ont manifestement beaucoup travaillé, et le travail profite, et leur travail est tout à fait intéressant. La grande maladresse du film, c'est qu'il y a une sorte de construction scénaristique qui ne marche pas, qui est d'appliquer une trame individuelle, un drame personnel, qui unit chaque membre de cette communauté, et le spectateur finit par étrangement, alors que c'est un drame, finit par s'ennuyer à cause de la répétition très 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 mécanique de ce scénario. C'est vraiment dommage.
Story, on a 3 minutes pour 3 films. On va commencer par Théo et les métamorphoses de Damien Oudoul. Théo est un jeune adulte trisomique de 27 ans qui vit avec son père dans une maison isolée, et son père le laisse et lui rêve.
Oui, c'est formidable, parce qu'il y a une sorte de voix intérieure de Théo qui conduit la narration, et avec des choses surréalistes qui surgissent, les images illustrent cette voix intérieure. Il faut accepter le poème, il faut accepter l'état de grâce, il faut accepter que les films ne sont pas forcément là pour raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin.
Encore un doc, à demain mon amour, de Basile Carré-Agostini. Monique et Michel Pinson, Charlot, sociologue spécialiste de la grande bourgeoisie, vivent et s'aiment depuis 50 ans et décident d'accélérer leur combat contre le système capitaliste planétaire. Est-ce agiographique ou pas?
Mais je n'y ai vu malheureusement que le portrait de deux retraités du CNRS dans leur petit pavillon de banlieue chic dans le sud de Paris. Alors on les voit au réveil, il y a un moment où il est en caleçon. Est-ce que vraiment Pierre Bourdieu, comparativement en caleçon, ça aurait intéressé quelqu'un? Ou plus précisément, est-ce qu'on l'aurait fait à l'époque? Non. Maintenant, on vit une époque où on est en train de demander aux gens, à des scientifiques comme ça, de se montrer en caleçon chez eux. C'est pas raisonnable.
Des mots qui restent, de Nourrit Aviv. 6 personnes évoquent le souvenir des langues qui ont bercé leur enfance, des parlers judéo-espagnols, judéo-arabes et judéo-persans. C'est un doc sur l'empreinte de la langue maternelle dans nos histoires et dans nos vies, Laurent.
52 minutes d'une intelligence redoutable, avec 6 grands témoins pour dire la tragédie de ces langues qui disparaissent, pour dire à quel moment on parle, on ne parle pas, et notamment quand il s'agit évidemment des langues liées à la Shoah. Donc il y a des moments de grâce absolue dans ce documentaire.
Et une reprise aussi.
Une reprise. Léonce Fioretti de François d'Assise de Roberto Rossellini. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est l'humanité plus la grâce. On en revoit encore.
Et puis sinon, il y a ce film Petite Nature de Samuel Tess sur Johnny 10 ans, qui est un peu sa vie, pas vraiment sa vie, qui est une petite merveille. On va pas le développer parce qu'on va le recevoir la semaine prochaine.
Magnifique. Moi, je l'ai découvert au Festival d'Angoulême. Mais c'est une merveille. C'est le plus beau film qu'on ait vu depuis longtemps sur l'enfance. Et puis, tellement actuel avec tous les questionnements d'aujourd'hui, et fait avec une subtilité, une délicatesse et une maîtrise de la mise en scène, de tout ça. Franchement, c'est magnifique.
Avec des acteurs remarquables comme Alyosha Reinhardt et Antoine Reinhardt, bien sûr.
Et on vous en parle samedi prochain.
Voilà.
Vous avez de la chance. Je peux revenir.
Il faudra nous écouter, Jean-Pierre.
Je vous écouterai, promis.
Et sinon, nous avons des cadeaux pour vous, Jean-Pierre
Lavoignat. Oh, c'est trop gentil.
Vous lisez les vinyles encore, Jean-Pierre Lavoignat?
Je crois que j'en ai un. J'ai encore un tour de disque.
Achetez-vous un tour de disque si vous n'en avez plus, parce que vraiment, cette édition qu'on vous offre et sur laquelle on attire l'attention de nos auditeurs, chez Universal, Romy Schneider, musique de film, 1968-1982, tous les films dont on a parlé aujourd'hui, on trouve leur musique dans ce très très beau vinyle édité par Stéphane Lerouge. Il y a aussi la lettre de Rosalie, la formidable lettre de Rosalie. Bref, et il y a évidemment la chanson d'Hélène. C'est une très belle façon de rendre aussi hommage à Romy Schneider.
Mais c'est vrai, on a parlé de Sauter et un peu de Dabadie, mais il faudrait parler de Sartre.
De Sartre.
Le, c'est en ça que Les Choses de la Vie est un film incroyable, puisque c'est la rencontre de Sauté et Dabadi, de Sauté et Romy Schneider, de Sauté et Philippe Sard, sans même parler de son chef-op, des techniciens, tout ça. C'est un monde qui naît avec Les Choses de la Vie.
Et puis il y a deux roubés pour un vieux fusil, par exemple, pour le vieux fusil. Donc franchement, il y a des musiciens exceptionnels dans la carrière de Romy.
Il a laissé beaucoup de documents, Sauté, d'impressions.
Il a beaucoup gardé de choses personnelles sur ses tournages.
Oui.
Mais je dirais pas sur les premiers, enfin. Mais là, il y a beaucoup de mots de Romy Schneider qui écrivait beaucoup hein, à tous ses metteurs en scène sur les tournages, sur les feuilles de service. Il m'avait prêté, et elle est justement à l'exposition de la Cinémathèque, il y a une feuille de service de Max et les Ferrailleurs magnifique où Romy Schneider, avec le crayon à maquillage gras des yeux, là, a écrit Mon Clos. Tu diras au producteur et je sais pas qui, au directeur de production, que je ne viendrai pas au dîner ce soir puisque ni les machinaux ni les électros n'ont été invités. Romy.
Voilà. Et dans le cas de la mort en direct de Bertrand Tavernier, elle a écrit tout le temps des petits mots à Bertrand Tavernier chaque jour en signant du nom de son personnage.
Incroyable.
Et pas du nom de Romy.
Non, mais toujours tous les mots écrits à Claude Sauté sur les tournages, elle signe Marie, Hélène, Rosalie.
Il y a Dany Cadeau très vite.
Jane Campion par Jane Campion de Michel Simon aux éditions du Cahier du Cinéma. Ça, c'est un peu comme s'il y avait eu une entrevue entre Positif et Les Cahiers. C'est extraordinaire. Mais bravo. C'est formidable.
Merci à notre belle équipe, Laurent Thomas, Claire Destacan, la réalisation, Christophe Magère, la préparation, et Thierry Dupin à la musique. Au revoir.